RMC Running,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de RMC Running que l'on consacre aujourd'hui à un événement impressionnant et inspirant, le Marathon des Sables Legendary qui avait lieu du 4 au 14 avril au Maroc. Pour la 39e édition, 1000 participants pour parcourir en autonomie 250 km, soit 6 étapes en 7 jours à travers le Sahara. Une course extrêmement exigeante avec un taux de réussite énorme pour cette année. 95% des participants ont bouclé ce MDS. Et pour revenir sur cet événement hors norme, le maître Yodu est avec nous. Salut Johan.
Salut à tous.
T'as pas envie de participer au Marathon des Sables un jour, toi?
Alors, déjà, un marathon, c'est déjà pas mal. Alors, si en plus tu me rajoutes du sable, des étapes et la galère qui va avec...
Non, mais merci.
Je sens qu'il y a des histoires à raconter. Hein.
Je crois qu'il y a des belles histoires à raconter. C'est un sacré défi, en tout cas, qu'ont relevé d'ailleurs nos invités du jour. C'est parti pour le débrief.
Ça y est, vous y êtes, vous êtes dans le désert, enfin. Vous allez avoir du temps pour savourer le désert et pour vous rendre compte que cette aventure va changer votre vie.
On va passer au contrôle technique pour vérifier le poids, vérifier le matos, récupérer les dossards. J'ai un peu mal au ventre de stress là.
Aujourd'hui, vous êtes toutes et tous venus pour être des finishers. Et le deal qu'il faut qu'on ait ensemble, c'est que vous deveniez des finishers avec du plaisir sur chaque étape.
Je sais pas, j'ai des frissons. J'ai froid alors qu'il fait 40 degrés.
Quand je pense à mes collègues qui sont au bureau pendant ce temps, oh là là, que je les envie pas. Mais je pense qu'ils n'envient pas non plus.
I don't know what I'm doing here. I must be crazy. But I just want to become a legend.
Le nom de la course, elle le mérite bien. C'est la légende.
Ouais, sacré défi qu'est ce MDS et on a le privilège aujourd'hui de recevoir deux coureurs qui ont bouclé ce marathon. Et pas des moindres, puisque celle qui a terminé dans le top 10 du Marathon des Sables Legendary, mais surtout première féminine, est avec nous, Marilyn Nakashela. Salut Marilyn.
Salut.
Félicitations Marilyn, tu as bouclé le Marathon des Sables en 23h57 minutes et 20 secondes. Tu termines 4e au classement général, quelle perf.
Oui c'est ça, oui merci.
Et on a également avec nous Claude-Henri Durier, cofondateur de My Running Club, que tu connais bien, Johan, évidemment.
Exactement.
Claude-Henri est avec nous également, salut.
Salut à tous. Moi, j'avais un dossard élite, puisque j'avais le dossard numéro 7. Mais à la différence de Marilyn, j'ai mis 46h46, donc je ne termine pas dans les élites.
C'est déjà pas mal quand même. Bon, on va évoquer évidemment toute cette aventure avec vous. Marilyn, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta course? Tu as terminé 5 fois première des étapes, il y a juste la dernière que tu n'as pas remportée.
Oui, c'est ça. Écoute, bah, ça s'est plutôt bien passé, même très bien. Je n'ai pas eu vraiment de coups durs. Et non, je ne sais pas, tous les éléments étaient réunis pour cette course-là, donc je suis plutôt contente.
Comment tu as vécu cette course? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que au contraire, c'est pas la première fois hein, que tu la faisais? Tu l'as notamment faite en 2023. Tu as amélioré d'ailleurs ton temps par rapport à 2023 et même ton classement, puisque tu avais fini 11e et cette fois, tu es dans le top 10. Comment tu as vécu cette course de l'intérieur, physiquement, mentalement également? Parce que c'est très dur, il faut aller puiser mentalement assez loin, j'imagine.
Alors, c'était très dur, mais je l'ai trouvé beaucoup plus facile qu'il y a 2 ans. Pour la simple et bonne raison qu'on a eu 10 à 15 degrés de moins. Et en fait, je m'attendais tellement à que ça soit plus dur, donc comme l'édition 2023 dont j'avais beaucoup souffert, que finalement ça m'a semblé pas facile, mais voilà, je m'attendais tellement à que ça soit dur que ben, finalement j'ai pas eu ce coup de dur et tout s'est bien passé. Et voilà, donc ça a beaucoup aidé là-dessus aussi.
Toi, Claude-Henri, comment t'as vécu cette course ?
Alors moi, pour le coup, c'était très dur à la différence de Marilyn. J'ai pas connu les degrés en plus. Par contre, on a eu. Il faisait chaud quand même. Enfin, moi, je trouvais qu'il faisait quand même assez chaud.
Il faisait combien à peu près en moyenne?
On a eu des tempêtes de sable. La Garmin affichait 34.
Ah ouais.
Oui. C'est quand même assez chaud.
C'était quand même. Et à certains moments. Ouais, surtout à certains moments, il y avait du vent. D'autres moments où tu passais dans des vallées, il n'y avait plus de vent. Donc là, tu prenais quand même la chaleur. Et puis surtout, on a eu le soir, moi je ne connaissais pas du tout, mais le soir, on a eu des tempêtes de sable. Donc tu dors dans des tentes berbères, hein, c'est ouvert des deux côtés. Donc après, à toi de le fermer un des deux côtés, suivant quand le vent souffle ou pas de l'autre. Et puis, on a eu des orages, on a eu. Donc le matin, tu te réveilles, tu as du sable partout dans la tente, tu dors mal. Voilà, moi c'est plus ça, ce côté-là que je n'avais pas du tout appréhendé. qui est quand même assez extraordinaire à vivre. Alors après, les premières nuits, c'était ciel bleu, et donc là, c'est le ciel est magnifique au milieu du désert. Mais les autres nuits étaient un peu moins drôles.
C'est un sacré défi, et la préparation, elle doit être très particulière, Johan, surtout, comme Marilyn le dit, il y a la chaleur, il y a donc environ 34 degrés en moyenne, c'est énorme, surtout que c'est une course qui a lieu en avril. La préparation qui se fait en amont, si on la fait en France, c'est pas du tout les mêmes températures. Comment on fait pour se préparer de manière optimale pour ce genre d'échéance ?
Bah, je pense que Marilyn va nous donner les pistes qu'elle a améliorées pour avoir des meilleures sensations sur ce MDS par rapport à 2023. Mais effectivement, c'est pas évident de passer de, si tu restes en France ou en Europe pour t'entraîner, bah, malgré tout, même si on a eu un beau mois de mars, où les températures par chez moi, il a quasiment pas plu et on était proche des 20 degrés. On n'est pas sur 34 degrés comme on peut le retrouver au Maroc. Donc effectivement, la météo est toujours un point à prendre en compte. Après, bah, y a aussi cette histoire de travailler dans le sable, le dénivelé, les appuis, les choses comme ça.
Ouais,
ça, c'est quelque chose qui se travaille spécifiquement. Donc je pense que c'est un peu tout. Et comme l'a dit Claude Henry, la difficulté aussi, c'est le fait que bah, ça soit 5 étapes, enfin 6 étapes, avec des nuits qui sont parfois bancales parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a du sable partout, parce que ça, les conditions sont galères. Donc je pense que c'est un ensemble qui fait que la première fois, certainement, tu es surpris. Et puis petit à petit, après, tu connais les choses et tu arrives à mieux gérer, que ça soit le bivouac, que ça soit la météo, que ça soit l'entraînement, ouais.
Marilyn, comment tu t'es préparée, toi, pour cette course ?
Exactement, Johan, il a raison. Quand tu le vis une deuxième fois, tu connais déjà un peu ce qui va se passer. Donc déjà, bah, ça te fait un peu moins peur. Et voilà, tu t'y prépares mentalement. Après, j'avais essayé d'à peu près tout optimiser, si ce n'est bah, la chaleur. Hein. J'étais en France, donc il faisait... un mois avant, on avait plutôt de 10-15 degrés. Donc bah, j'ai pas pu vraiment optimiser ça et m'acclimater, sauf que en fait j'avais fait un trail à Madère, à la Transgran Canaria, donc aux Canaries, en février, où il avait fait très chaud. Donc déjà ça m'avait permis aussi d'avoir ce petit côté chaleur, même si c'était longtemps avant. Et sinon niveau préparation, j'ai beaucoup borné. J'ai peut-être autant borné, autant que toi, Johan, que tu fais d'habitude. Donc, j'ai bien fait 200 km par semaine pendant deux semaines, sauf ce que je ne fais pas. Et j'ai fait aussi un stage en Camargue de 10 jours où j'ai beaucoup couru sur le sable.
Mmh. Ok. Ah ouais,
donc, c'est ça, ouais. Voilà, là-dessus, j'avais pas mal. J'avais déjà fait ça il y a 2 ans, mais je l'ai un peu plus intensifié encore.
C'est quoi la spécificité quand on court sur sable, Johan ? Comment on appréhende les choses quand on doit courir sur une surface sur laquelle on n'a pas l'habitude de courir ? Parce que la plupart du temps, on s'entraîne quand même sur le bitume ou sur des routes
c'est totalement différent, ouais.
Les
appuis sont... Ouais, les appuis sont fuyants, ça s'écrase. Alors après, je connais pas exactement le sable marocain sur les dunes. Est-ce que malgré tout, ça renvoie un peu et quand il est bien tassé, ça peut rendre. Mais effectivement, c'est galère. Et après, il y a quelque chose que l'on n'a pas dit, mais c'est le dénivelé. Est-ce que aussi au-delà du sable, il y a des dunes à passer, des reliefs montagneux à passer qui sont quand même handicapants sur ce type de parcours?
Alors il y a un peu dénivelé, mais bon, après ça dépend si on vient du monde de la route ou du monde du trail. Pour moi, le dénivelé, c'était plutôt le bonheur. Voilà, et en fait il y a de tout, hein. Il y a du dur, il y a du mou, il y a du sableux, ouais, il y a des dunes, il y a vraiment un peu de tout.
Roche.
Il faut habituer son corps à ce changement en fait de rythme et d'appui qu'on peut avoir sur le marathon des sables. Après moi je sais que je préférais largement monter des dunes et les descendre que quand c'était tout plat pendant des kilomètres et des kilomètres où voilà, c'était pas trop mon truc.
Toi Claude-Henri, comment tu t'es préparé à cette surface?
Moi je me suis pas trop, malheureusement j'ai pas eu trop le temps de me préparer, mais on est parti en stage d'entraînement avec une des coaches de My Running Club et Cindy Poumerol que j'avais pris avec moi, qui est une influenceuse que j'emmenais sur le marathon des sables, et on est parti s'entraîner dans les Landes pendant un week-end où on a fait 50 bornes le samedi et 20 le dimanche. On avait fait 50 sur le dur, puisqu'il faut quand même aller à la plage au début. Et la deuxième partie était sur le sable. Mais en effet, par contre, le sable n'a rien à voir avec... notre sable français n'a rien à voir avec le sable du Sahara, en fait. Ah, enfin, pas Sahara, mais du désert, en tout cas. Il est, là-bas, c'est super fin. T'as pas les mêmes appuis. T'as l'impression qu'en France, quand tu marches, même, j'ai une bêtise, sur la dune du Pila, t'as quand même des appuis. Là-bas, j'avais l'impression que tu marchais, parfois, tu glissais tout seul. Je sais pas, enfin, à la différence
ouais,
peut-être de Marilyn.
C'est
un sable
fuyant qui s'échappe, ouais.
Ouais, exactement. C'était assez, assez compliqué. Mais je suis d'accord avec Marilyn, c'était quand même beaucoup plus sympa quand tu avais du dénivelé que quand tu étais sur du plat, ou parfois tu es sur du plat pendant vraiment des kilomètres.
Ouais, ça paraît interminable.
Ah, ça paraît interminable. moi, je suis arrivé à la nuit, hein, sur la 80, il y a une étape de 82 km, je suis arrivé pendant la nuit, à la différence, je pense, de Marilyn. Mais quand tu es dans la nuit et que tu vois toutes les petites lumières au fond qui avancent, fond. Et tu dis mais c'est incroyable, tu te dis je vais jamais y arriver.
On parlait de la chaleur juste avant. Combien de temps vous êtes arrivé avant le départ de la course pour que vos corps s'adaptent? Est-ce que vous avez eu une phase d'adaptation à cette chaleur, à cet environnement qui n'est pas le même que ce qu'on a en France?
Pour ma part, du tout.
Vas-y, Marilyn.
Je suis arrivée 2 jours avant.
Ok.
Donc, j'ai pas eu du tout d'adaptation, mais c'est ce que je disais par rapport à il y a 2 ans, c'était tellement moins chaud que j'ai pas vraiment souffert de la chaleur pour ma part.
Ok. Et toi, Claude-Henri, t'es arrivé pareil deux jours avant ?
Ouais, on est arrivé 2 jours avant. Après, ce qui est très bien fait dans le programme du Marathon des Sables, c'est les 3 premières étapes. Je sais pas si comment tu l'as vécu, Marine, mais enfin, moi, la première, c'était un 30 ou 32. Après, tu avais le 40. Après, encore un 30. Exactement. Et en fait, finalement, quand tu arrives à la 82, bah, tu as les jambes, à la différence d'un marathon où tu as les jambes un peu cassées. Là, tu étais en pleine forme. Même le soir du 82, le lendemain, tu peux faire des squats, tu peux danser. C'est pas forcément ça qui est gênant. Moi, c'était surtout les ampoules qui étaient gênants et les appuis qui changent de la route.
Alors après, il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est hyper importante, c'est le poids du sac aussi.
Ouais,
c'est la spécificité de la course. Et donc, on part avec un sac au minimum de 6,5 kg sur la première étape. Et en fait, ce sac s'allège petit à petit. Donc déjà, bon, il y a une préparation vis-à-vis d'apprendre à porter un sac lourd à faire. Bon, ça ne sert à rien de non plus porter des heures et des heures un sac lourd pour apprendre à s'entraîner, mais il faut quand même un minimum l'avoir sur le dos et l'avoir adapté et voir ce que ça donne. Mais du coup, quand tu arrives à l'étape 4, km 80, le sac est beaucoup plus léger. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir de meilleurs appuis et des jambes qui... Enfin, on a l'impression de voler, quoi, après, sur la course.
tu le disais, c'est une course qui est en autonomie. Donc vous portez un sac, ce que tu es en train de raconter. Qu'est-ce que vous mettez dans vos sacs et comment vous vous organisez vis-à-vis de cette course qui se déroule en autonomie complète?
Alors, pour ma part, j'ai privilégié plus la bouffe au confort. C'est-à-dire que pratiquement tout dans mon sac, si ce n'est le matériel obligatoire, donc il y avait des petits trucs, un petit sifflet, un couteau, enfin des trucs un peu pour au cas où il arrive quelque chose, une lampe de frontale et puis une couverture de survie. Le reste, c'était, bon, il y avait le duvet et tout le reste, c'était pour ma part de la nourriture parce que fonctionner comme ils veulent à 2000 kilocalories par jour sur des courses comme ça, pour moi, ce n'était pas possible. Donc j'ai augmenté les volumes de nourriture, donc tout en lyophilisé hein, pour avoir un poids mini. Mais j'ai vraiment privilégié ce côté-là.
Toi aussi, Claude-Henri, tu as mis plutôt l'accent sur la nourriture que sur le confort?
Un peu des deux. un peu des deux. Après, on avait quand même... T'as le duvet. Moi, j'avais un matelas. Je ne sais pas si... Quoi, Marine, je pense que tu n'en avais pas. Mais,
non,
moi,
pas de matelas. Je dormais par terre.
Voilà. Donc, sur le tapis. Mais moi, j'avais pris matelas et duvet. Après, tu as quand même ta petite popote et en effet la nourriture. Mais moi, mon sac au début sans l'eau faisait 8,7 kg. Donc, tu rajoutes 1,5 kg en plus. Et c'est vrai que le premier jour, le soir, tu enlèves ton sac,
t'as
les épaules. Mais c'est une libération. À la fin, le sac ne fait qu'un avec toi. mais par contre, moi, j'avais pas du tout faim. Donc, en effet, on devait avoir 2000 calories par jour. C'est ce qui c'est réglementaire sur le marathon des sables. Je pense que par jour, je mangeais 2 barres et je mangeais un plat lyophilisé à 1000 calories. Bon, j'ai perdu 3 kilos.
Voilà, t'avais fait les réserves avant.
T'étais attends, malin,
toi. Tu me donnais ce que tu mangeais pas alors, parce que moi, je crevais de faim malgré mes 3000 kilocal.
Ah ouais, moi, j'en ai jeté. Enfin, j'en avais trop parce que la chaleur et l'effort ne me donnaient pas du tout faim sur la longue étape. Alors, on arrive avec Cindy et Thomas, Thomas et le mari de Cindy, pardon. Mais on arrive à 1h30 du matin. On n'a même pas la force de se faire à manger. Et donc, ouais. Du coup, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on se fait à manger demain. Donc là, on avait fait une pause. Ouais, on avait fait une pause à 14h. En plus, nous, c'était l'orage pendant ce temps-là. On avait fait une pause à 14h où on avait mangé un plat de couscous à 500 calories. Et donc, du coup, tu te dis, bon, j'ai tenu avec 2 barres et 500 calories sur 82 km et 17 heures de course.
Je sais pas comment t'as fait, hein, chapeau.
Et pendant la course, vous vous nourrissiez également, vous aviez des gels, des barres avec vous?
Oui, alors on n'a peut-être pas su nos 60 ou 80 grammes de glucides comme recommandé actuellement. Donc on essaie de se... Enfin, moi, il y a 2 ans, je n'avais pas pris assez sur la course parce que je suis quand même très énergivore et ça m'avait beaucoup manqué. Donc là, j'ai essayé de prendre un peu plus des dattes, des oléagineux, des gommes Thai Energy, des électrolytes, tout ça. Et même sur l'étape longue, je m'étais fait des douilles de purée mousseline que j'avais réhydratée histoire d'avoir assez à manger. Ça marche très bien.
Okay.
Avec un peu de parmesan d'ailleurs, ça se conserve très bien. À la chaleur.
Luxueux.
Ah, bah, c'était obligé, t'imagines. Moi j'ai fait pratiquement 8 heures. Si t'as 3 dattes et 2 oléagineux, ça suffit pas quoi. Donc voilà, j'avais pris ça et c'est très bien passé. Mais je sais pas comment tu as fait toi pour ne pas beaucoup manger comme ça.
Non, bah, surtout, la chaleur donnait pas forcément envie. Alors après, tu te forces quand même à manger. Et moi, j'avais pris plutôt des barres gourmandes en chocolat, cacahuètes, tu vois, des choses comme ça. J'avais pas du tout pris des barres énergétiques dans le rayon de l'autre côté. J'avais favorisé plutôt la gourmandise plutôt que l'énergie pure.
Ça aussi, Johan, ça se prépare en amont, savoir comment on va faire pour se nourrir sur des telles distances chaque jour.
Ah bah oui, alors là, ça se prépare et ça se calcule. C'est comme ça, on en parle pour un marathon, mais c'est encore plus important comme ça sur des efforts de plusieurs jours où l'organisme il est mis à tellement rude épreuve qu'effectivement, faut recharger, mais surtout, faut le tolérer et faut en avoir envie parce que voilà, si tu pars tout le temps avec ta même soupe, ta même purée, les mêmes gouttes, machin, les mêmes taboulés, peut-être qu'au bout d'un moment, t'as un certain dégoût, t'en veux plus, le sucre même, des fois, à un moment donné, t'en fais une overdose. Donc effectivement, faut le tester à l'entraînement, faut savoir ce qui nous va. Et puis voilà. Après, c'est faire preuve d'adaptation, hein, de manger des produits lyophilisés comme ça et tout. C'est particulier aussi, donc ça demande.
Bon.
Comment ?
C'est plutôt bon lyophilisé.
C'est plutôt bon.
Alors c'est plutôt bon, c'est même pas mauvais. Maintenant, ils font des choses bien, sauf qu'au bout d'une semaine, t'en peux plus. Hein.
Ouais.
T'as hâte de retrouver de la nourriture.
Tout a le même goût à la fin et tout. C'est comme des trucs pour les bébés, quoi. T'as rien de croquant, c'est tout bouilli. Voilà, après, t'as qu'une envie, c'est de retrouver tes fruits et légumes croquants à la fin de la semaine.
je suis d'accord sur les fruits et les légumes, mais je trouve que quand même les pâtes... tu vois, j'avais un riz tandoori que j'ai mangé le lendemain matin de la longue, et ben c'était délicieux.
Tu l'as savouré.
C'est vrai qu'ils font des choses pas mal maintenant.
Franchement, c'était quand nous, la marque par laquelle on est passé, était vraiment, quoi. En tout cas, il y avait différentes choses. On trouvait de la pomme de terre, des pâtes, du riz, des pâtes bolo, des pâtes carbo, des pâtes aux 3 fromages. Il y avait plein de choses. Et c'était vraiment, j'avais pris un par jour, tous différents à peu près, pour pas avoir la même chose. Alors que t'en as certains qui avaient la même chose. Et en effet, eux, à la fin, bah, quand tu manges 7 ou 8 jours parce que tu as une journée sur le bivouac pour t'acclimater, quand tu manges toujours la même chose, c'est vrai qu'à la fin, c'est un peu lourd.
Ouais, c'est ça. Et ça se réhydrate avec de l'eau froide ou tu es obligé de faire chauffer?
Ça dépend lesquels.
Ouais.
De plats. Okay. Moi, tous les midis, je me faisais un taboulé parce que c'était froid et que ça allait se réhydrater. Comme j'arrivais la première au bivouac, j'avais un peu la flemme de faire le feu. Parce que pour faire le feu, enfin, je ne sais pas ce que tu avais prévu, mais moi, on allait chercher le bois, en fait, enfin le bois. Dans le désert, il faut trouver une espèce d'herbe à chameau, en fait. Et on fait une espèce de feu, un feu de camp, pour certains, pour ceux qui n'ont pas ramené de réchaud, et tu fais ta popote comme ça.
Ah ouais.
Ah ouais.
Donc, il faut avoir le feu, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, il ne faut pas qu'il pleuve, il faut avoir Le coup de main, donc ça, je l'avais appris il y a 2 ans avec un local Lucine qui m'avait appris un peu comment on faisait le feu. Mais ça prend du temps.
Justement, comment vous gérez quand vous voyez les... Tout à l'heure, vous parliez de tempêtes, d'orages, etc. Comment vous vous organisez, Marilyn? Est-ce que tu as été confrontée à ça pendant ta course? Et comment tu t'organises quand tu vois ces éléments qui arrivent, qui vont se déchaîner sur toi?
Alors, j'ai eu de la chance d'arriver à chaque fois tôt au bivouac. J'ai jamais eu de pluie, ni de... Enfin, pas beaucoup en tout cas, et ni de tempête. À l'étape longue, je suis arrivée à 15h30 et la tempête a dû se passer le soir. Par contre, j'étais toute seule du coup dans ma tente parce que j'étais dans une tente où il y avait une équipe de joëlettes. Donc eux, ils mettaient la plupart du temps 2 fois plus de temps que moi.
Okay.
Donc je me retrouvais toute seule et le soir de la tempête, j'étais toute seule sous la tente. Donc les tentes, il faut savoir que c'est juste des bouts de tissu avec 3 piquets.
Ouais.
Et que c'est solide, hein, c'est pas mal, mais bon, ça s'envole vite. Donc je me suis pris un poteau sur la gueule.
Ah, sympa.
J'ai eu un bleu nodalement et je me suis retrouvée surtout la tente qui était complètement écroulée sur moi et j'étais toute seule.
Ah, oui. Ah ouais.
et après en fait tu prends le coup de main, tu sais que quand il y a tempête de sable il faut fermer complètement ta tente et tu tiens la tente le temps que la tempête passe. Donc en plein milieu de la nuit pendant 1 heure tu peux allongée sur le sol complètement avec la tente qui est complètement rabaissée à la tenir jusqu'à que la tempête passe.
Ah ouais, tu dois attendre que ce soit terminé pour pouvoir te réinstaller.
Et Claude-Henri, toi, t'étais dehors à ce moment-là?
Ouais, alors nous sur la tempête, tu parles de la 82, sur la 82, Marilyn.
Oui, par exemple, ouais.
Ouais, le premier moment, on était dehors, je vois très bien où on était avec Cindy, on marchait avec les bâtons dans la nuit, avec la frontale, moi qui s'était éteinte, donc du coup, t'as que la petite frontale de survie, donc c'est un peu compliqué. Et le lendemain, j'avais pas compris pourquoi j'avais du sable derrière les genoux. Et en fait, c'était parce que quand il pleut là-bas, il y a aussi le sable qui souffle. Donc du coup, t'es cracra, il n'y a pas de douche. Et par contre, après, en effet, quand on est arrivé, c'est là où ça s'est levé. Enfin, tout est parti en vrille et la tente nous est tombée dessus. Tu dois remettre les bâtons et après tu t'endors et en effet on s'est endormi, les autres 4 autres sont arrivés de la tente et apparemment leur partie était au sol parce que les bâtons tombent, c'est juste des bâtons en bois qui tiennent la tente. Ouais. Hein, au début il n'y a pas grand chose, mais j'étais pas très loin de toi, Marine, parce que j'étais à la tente 68, donc j'étais juste devant toi, enfin, à deux tentes près.
Okay.
Et en effet, quand tu vois ceux qui, donc la tente où Marine était avec la joëlette, tu dis les mecs qui poussent la personne, je crois que ça s'appelait Clément, c'est assez impressionnant en fait. Déjà, toi, tu galères, mais alors eux te dire qu'ils ont la joëlette qui pèse 1 tonne, ils peuvent pas passer les mêmes difficultés que toi. Quand il y avait des pics de dunes, ils faisaient le tour, la voiture faisait le tour, il y avait une voiture assistante qui faisait le tour, mais l'équipe monter la dune, mais en effet c'est très compliqué. Les nuits, de toute façon, généralement il y a certaines nuits où tu dormais avec le bœuf sur toi, sur le visage. Moi je le mettais comme ça, j'étais tranquille.
Ouais, c'est... Okay. Mais de toute façon, je retrouve encore du sable dans mes valises là, et puis toute la semaine tu bouffes du sable, t'as du sable dans le nez, t'en as sur le visage, tu te laves 2 secondes après, c'est fini, t'en as encore plein partout. Enfin, il faut vivre avec le sable, hein. Ça fait partie des conditions du bivouac et de la course.
Et ce qui est assez bizarre, c'est vraiment, encore une fois, le sable, il est vraiment très fin. C'est vrai que tu parlais du sable dans le nez, à un moment, tu te dis, mais c'est un combat. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir des cailloux, tu as l'impression d'avoir des cailloux dans le nez où tu te dis, mais c'est pas possible, t'as beau te moucher, tu vois que tu as du sable qui s'infiltre partout. Et comme il est très fin, ça se met, même tes guêtres, les chaussures, tu te dis, non, il n'y a pas de sable. Tu parles, t'enlèves tes chaussures, c'est rempli de sable.
C'est un sacré défi, ça aussi, en soi-même à relever. Au-delà même de la course, c'est quand même, mentalement, faut aller chercher aussi au fond de soi. Comment vous avez géré également le sommeil? On imagine que ce n'est pas des nuits ultra réparatrices, Marilyn.
Pour ma part, j'ai plutôt mal dormi, mais un petit peu mieux qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je pense que j'avais eu 0 heure de sommeil, vraiment, et parce qu'il faisait chaud, parce que je n'étais pas habituée à dormir par terre, parce que... Voilà, là, j'ai pu quand même dormir 3-4 heures par nuit, par à-coup. Comme tu n'as pas de matelas, il faut te tourner toutes les 20 minutes, en fait, parce que ça fait mal. Donc voilà, mais finalement le matin, avec l'ambiance, avec le soleil qui se lève et tout ça, et puis tout le monde ne dort pas très bien, tu repars et t'es pas, enfin moi j'ai pas été fatiguée durant la course, c'est plutôt maintenant que je ressens la fatigue.
Toi Claude Henri, ouais. Comment ça s'est passé tes nuits?
La première nuit, je me suis réveillé, tu fais une vidéo, t'es boursouflé de partout. Tu te dis waouh, ouais. Je pense qu'il y a des bourdons qui sont venus, qui m'ont piqué le visage, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis finalement, en fait, tu t'habitues. C'est exactement ce que dit Marine. Tu t'habitues. Le matin, tu te réveilles. On se réveille quand même à. Alors, nous, on avait une tente où on avait une partie jeune et une partie un peu moins jeune. Dans la partie un peu moins jeune, ils aimaient bien se lever très tôt pour préparer leurs pieds, leurs bouffes, oui. Etc. le matin. Donc parfois, ils mettaient le réveil à 4h du mat ou à 4h30. Ouf. Tu dis waouh, ouais, mec, on part à 6h30, tu vois, ça fait 2h d'écart. Ouais, c'est quand même. Et puis avec la frontale, tu la prends, ça te réveille. Hein, quoi. Le peu de bruit te réveille. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'espace non plus dans la tente. On est 8 par tente. Donc tu as ton petit espace, tu essayes de rester dans ton alignement pour ne pas déranger les autres. Et donc du coup, là, tu t'habitues à ce sommeil qui est finalement saccadé, à la fin. Ouais, qui est saccadé. Et finalement, quand tu te réveilles, surtout, c'est ce que dit Marilyn, hein, c'est vrai, tu te réveilles le matin. Tu vois toutes les petites frontales se lever, tout le monde va se brosser les dents, les gens qui vont aux toilettes, tu prépares ta petite nourriture, ton petit déj. Et puis après, tu pars et tu as une énergie de dingue le matin, alors que...
ouais, c'est l'adrénaline, en fait.
Ouais, il y a l'adrénaline. Et puis moi, j'arrivais pas à dormir tôt. Généralement, j'arrivais à me dormir vers 10 heures. Mais ceux de ma tante, 8 heures, 8h30, c'était plié. Donc finalement, tu dors à 8 heures, tu te réveilles à 4. Tu fais quand même une nuit de 8 heures.
Tu fais quand même 8 heures de sommeil.
Ouais, c'est largement possible. Mais j'ai eu tous ceux de ma tante par message hier et ce matin. Et je leur ai dit, j'ai l'impression d'avoir pris un bus là.
Post-course, c'est compliqué.
T'es crevé, tu rentres. Alors que t'as une énergie, t'es bien. Et d'un seul coup, tu prends, tu dis waouh, c'est compliqué.
Plus rien.
Et tu vois, on fait le marathon de Londres avec Johan. Alors Johan y va, mais moi je le cours dans 10 jours. Oui. Là, je me dis, je m'étais dit le marathon des sables pourra me servir de préparation pour le marathon de Londres en enlevant le sable, le sac à dos et en passant sur du bitume.
Ça sera plus simple.
Je pense que ce sera plus simple et ça le sera. Mais c'est vrai que ce matin, j'ai une petite crainte en me disant waouh, ça peut être compliqué parce que tu as du mal à reprendre le rythme de sommeil. Et puis après, le rythme de la vie normale. En fait, tu reprends ton boulot, tu reprends. Il y a les enfants, il y a tout ça où la vie continue, en fait. Les gens ne t'ont pas attendu.
Ouais, Johan, comment tu fais pour enchaîner comme ça? Ça serait quoi tes conseils pour enchaîner une telle course avec un marathon juste derrière, 10 jours plus tard?
Ah, bah là, c'est de se reposer, c'est délicat, mais c'est vrai qu'il y a les deux côtés. Tu as le côté mental où tu sors d'une aventure de dingue au fin fond. Au fin fond du Maroc et tu reviens en France avec comme il le dit la vie classique, la vie quotidienne, le boulot, les enfants, le métro, le ci, le là, donc effectivement ça, là tu prends un petit coup d'un point de vue mental et après c'est de se relancer pour le marathon de Londres. Je suis pas trop inquiet, s'ils soignent les ampoules ça va le faire, mais c'est une fatigue, c'est une lassitude qu'il faut, il faut quelques jours pour le digérer. C'est quand c'est pareil, dès que tu, enfin c'est sur le marathon, on parle du marathon blues parce que voilà, derrière, une fois que tu as passé ton marathon, bah t'as plus d'objectifs, c'est ouais, dur de mentalement de se relancer derrière. Bah là c'est exactement la même chose, et décuplé parce que c'est 6-7 jours d'effort, c'est une aventure à l'autre bout du monde, tu vois des paysages magnifiques, et quand tu reviens dans ton quotidien, bah, il faut, ouais, c'est pas simple de se relancer, ouais.
Ouais, le contre-coup doit pas être évident. Marilyn, si on revient sur ta course, toi, t'as couru plutôt seule ou t'avais du monde avec toi? Comment ça s'est passé tes journées, chaque étape?
Bah, ça dépend. Souvent, début d'étape jusqu'en milieu d'étape, j'étais accompagnée. À savoir que pour l'étape longue et pour le marathon, les 30, enfin les élites et les, enfin ceux qui sont les, je crois que c'est les 30 premiers au niveau chrono, partent après. On part 1h30 après, donc du coup, on remonte tout le monde.
Pour les rattraper.
On voit du monde. Exactement, oui.
Ça, c'est
oui,
vraiment
oui.
Génial.
Ça, c'est vraiment bien et on se fait encourager. Ouais. Et vraiment, c'est bien parce qu'on se retrouve vite tout seul en plein milieu du désert. Enfin, moi, je sais que sur l'étape longue...
Quand tu passais.
Exactement, ouais, c'est gentil. Merci, non, vraiment, ça fait trop plaisir, sauf que bah, à la fin, tu te retrouves souvent tout seul, hein, souvent. Alors, sur les étapes moyennes, je me retrouvais toute seule que les derniers kilomètres, sauf que sur l'étape longue, j'ai eu 30 km toute seule. Et c'est les 30 km les moins jolis et les 30 km qui sont les plus plats. Et là, je peux te dire que c'était long.
C'était quoi ton allure à peu près pour chaque étape? C'était différent, j'imagine, d'une étape à l'autre, mais...
Je sais pas, mais en moyenne, je suis allée un peu plus de 10 km/h, je crois. Je sais plus combien j'ai mis au total, 23 heures, enfin un peu moins de 24 heures pour faire. Voilà, un peu moins de 24 heures pour faire 250 bornes, mais sauf quand il y avait des dunes où tu ralentissais un petit peu quand ça montait très fort. Sinon, ouais, je suis pas partie trop vite et j'essaie d'à peu près régulière et ouais, peut-être un peu plus que 10 km/h.
Ton bagage d'ultra trail, ça t'aide dans ces courses-là?
Ça aide beaucoup mentalement et pour la gestion de course, oui. Après, ouais, ça quand même aide beaucoup quand même à enchaîner tous ces kilomètres.
Ouais, parce que Johan, on parle du défi physique, mais il y a un défi mental à aller chercher qui est impressionnant quand même.
Bah, ça, c'est des efforts. C'est vrai que ça se rapproche du trail parce qu'on est sur des efforts relativement longs avec des parcours sinueux, escarpés. Donc, non, c'est le mental, à un moment donné, il doit prendre le pas. Souvent, sur marathon, on dit après le 30e, c'est le mental qui prend le pas sur les jambes. Et là, effectivement, à un moment donné, c'est dur. Hein, 24 heures, tu dois être concentré pendant 24 heures. Faut faire un effort pendant toute cette durée-là. Effectivement, le mental est super important. La connaissance du parcours, à mon avis, plus tu le fais, et quand je regarde les résultats, j'ai l'impression que effectivement plus tu cours cette course et plus tu l'appréhendes, plus t'as l'habitude des étapes, plus t'as l'habitude des efforts, plus t'as l'habitude de l'alimentation. Donc je pense que c'est la première fois, c'est une découverte, et après tu viens pour performer, pour te challenger et pour aller chercher des pseudo chronos ou des performances, ouais.
Toi, Marie,
exactement, sauf que les étapes changent tout le temps, c'est jamais, oui, exactement,
ouais,
même,
c'est jamais, ouais, les mêmes, ouais.
Ça, bah après, ça y ressemble beaucoup. Hein. Du sable, c'est du sable, des dunes, c'est des dunes. Donc, on ne voit pas trop la différence de notre côté. Mais on ne peut pas comparer d'un chrono à un autre, d'une année à une autre. C'est complètement différent.
Toi, en 2023, c'était où, Marilyn?
À peu près au même endroit. Je ne saurais pas trop dire où, okay, dans le,
ouais,
désert au Maroc.
Dans
aussi.
Le même endroit, à peu près. Ouais. Et est-ce que tu valides ce que dit Johan? La première, c'est plus une découverte. Et la deuxième, tu t'es mis un défi pour aller améliorer ton chrono, ou tu es parti dans le même état d'esprit que le premier que tu as fait?
Ouais, non, c'était, bah, disons, les comptes pour moi, c'était deux marathons complètement différents. Avec, on a, ouais, eu 45 à 50 degrés en 2023. C'était vraiment, on a beaucoup souffert dès la première étape. Donc, c'était complètement différent. Après, un chrono, comme je disais, comme c'est pas le même parcours, les mêmes conditions, c'est, oui, difficile. C'est ce que je voulais surtout, c'est, ouais, moins souffrir, prendre beaucoup plus de plaisir et refaire mieux, dans le sens où être mieux sur la course, mais voilà, de mieux la vivre.
Toi, Claude Henry, c'était quoi ton objectif? C'était le finir?
Moi, c'était déjà le finir. Déjà, l'objectif de finir, en fait, quand je le voyais à l'époque, tu vois les autres le faire, tu te dis waouh, c'est incroyable. J'avais déjà fait un HMDS, donc c'était le petit format, le 120 km avec à l'époque du Team Orange Running, avec Juan Arbeláez et Marine L'Orphelin. Mais c'était pas dans les mêmes conditions parce qu'il y avait des ouragans, donc on avait dormi à l'hôtel, on n'avait pas vraiment la même chose. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de le finir, celui-ci. Quelque chose qui était déjà impossible pour moi, je me voyais pas le faire. Et c'est exactement ce que dit Johan, c'est-à-dire que j'en parlais ce midi. Maintenant, je me dis, j'ai peut-être envie d'y retourner pour me challenger. C'est-à-dire que je sais ce que c'est. J'ai compris ce que c'était, j'ai compris où étaient mes erreurs de pied, de poids, de bouffe, de plein de choses. Et je me dis, bah, peut-être que ce serait intéressant de le refaire pour se re-challenger et voir ce qui est possible d'en tirer et pas faire 46 heures, ce qui est pas trop mauvais, hein, mais ce qui est quand même très loin de... Sans, moi, j'ai pas du tout le niveau... des autres, de Marilyn ou d'autres, des 30 premiers que tu voyais passer comme des flèches. mais ouais, se re-challenger pour voir ce que c'est. Une fois que tu as fait la découverte, maintenant tu te dis que, ouais, tu peux aller un peu plus loin. C'est comme un marathon. Le marathon, une fois que tu le fais, la première fois, c'est une découverte, tu as plein d'émotions. La deuxième fois, tu te dis « Ok, je sais comment je l'ai géré, comment je peux le gérer, comment je peux gérer la nourriture, comment je peux gérer les bars ou les ravitaux. » Bon, bah voilà, maintenant, à moi de me re-challenger pour essayer de repartir et refaire une belle aventure. Surtout que l'année prochaine, c'est les 40 ans, donc ça peut être aussi intéressant de le faire.
Ah oui, effectivement. Toi, Marilyn, est-ce que tu aurais envie de repartir sur les dunes, recourir le marathon des Sables ? Le record pour une femme, c'est 3 fois, 3 victoires. Est-ce que tu aurais envie de te re-challenger ?
J'avoue que c'est tentant, d'autant plus que ouais, il y a les 40 ans l'année prochaine, donc à voir.
Toi, Johan, on va t'y voir un jour ou pas ?
Non, non, non.
C'est un don catégorique.
Honnêtement, si, c'est vrai que ça commence à me donner envie quand j'entends les histoires et tout. J'ai quand même envie d'aller découvrir ces trucs-là, mais pas dans l'optique de faire une performance, quoi. Ça serait vraiment l'optique de découvrir, de courir dans la dune, de le faire avec des potes et de vivre une aventure à plusieurs. Ouais. Pas dans une logique de performance. Là, ça, c'est pas le genre de truc qui m'attire, mais ça, enfin voilà, à plusieurs, j'ai l'impression que l'aventure elle peut être dingo.
Ouais, c'est ça, c'est que c'est une aventure humaine aussi en plus quand on est à plusieurs.
Ah, nous on était plusieurs, on était un groupe de 6. Moi je partais avec mon meilleur ami, après j'avais Cindy et Thomas qui sont de ce côté influence et le côté pro, et après j'avais encore 2 autres personnes. Tu vis quand même des choses incroyables. On a fait un bout de chemin avec Thomas et Cindy, on était à 3 ou à 4. Et c'est vrai que c'est super excitant. Et tu partages tout comme. C'est comme dans un groupe de enfin, quand les footballeurs partent à la Coupe du Monde, etc. Tu partages tout.
Alors, c'est une vie de groupe.
C'est une vie de groupe, forcément c'est en plus petit et sans se comparer à l'équipe de France, hein, bien sûr. Mais on a l'impression de vivre nos petites histoires, nos petits trucs. Tu parles de tes petits bobos. J'ai trouvé qu'on parlait quand même beaucoup moins sur le marathon des sables que sur les half marathons des sables. Parce que t'as l'appréhension de la 82, de l'étape 82 qui est la quatrième étape. Elle est dans la tête de tout le monde quand tu commences.
Ouais. Ouais.
Donc on est déjà un peu plus focus. Tu sens quand même qu'il n'y a pas plus de compète, mais en tout cas il y a plus de tension, parce que cette étape des 82,
elle fait peur.
Elle fait très peur. Nous on en a eu un dans la tente, il avait des ampoules la première étape, mais c'est pas des ampoules qu'il avait.
Il éclairait la tente.
Ah, il éclairait la tente, il avait des halogènes sur les pieds. C'était des olives, mais vraiment, il avait des olives sur les deux niveaux des pieds. Ouais.
Donc là, tu te dis comment il finit, quoi.
Ah bah comment il finit. Et en fait, il y a un moment où moi, quand j'ai eu mes ampoules et que j'avais du mal à marcher, que j'ai failli abandonner 15 fois hein, pendant la course. Et grâce aux gens qui te laissent des messages, grâce à plein de choses, tu reçois quand même des messages parce que tu peux allumer ton téléphone, tu captes quand même un peu partout. Quand tu reçois des notes vocales où on t'encourage, où tu reçois des mots.
C'est ça qui t'a fait tenir, ouais.
Ouais, moi, il y a en partie de ça qui m'a fait tenir. Et puis, il y a un moment où, en fait, la douleur passe et tu surpasses, je ne sais pas comment tu fais. Tu oublies ta douleur, tu sens que tu as mal, mais tu marches dessus et tu termines.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais les ampoules, ça doit être horrible à vivre. Et en plus, avec ce genre de distance, ce genre de parcours, ça doit être démultiplié par rapport aux courses qu'on a l'habitude de courir. Marilyn, toi, est-ce que tu en as eu et comment tu as géré cette douleur ?
Alors, en 2023, j'avais les pieds dans un état et impensable de pouvoir recourir le lendemain. Et comme il disait, tu débranches ton cerveau, tu y arrives. Tellement que j'avais fini sous antibiotiques après la course, ils étaient complètement infectés. Enfin, voilà. Je ne pouvais plus marcher à cause des ampoules. Cette année, alors je les avais peut-être un peu mieux préparées, surtout qu'il faisait un peu moins chaud, j'avais pas les mêmes chaussures, les mêmes guêtres. J'ai fait un peu différemment et j'ai eu 2 mini-cloques, mais qui m'ont pas du tout embêtée. Donc j'ai pas eu de soucis de ce côté-là.
Au niveau de l'organisation, il y a un gros, gros travail au niveau du médical. Ils sont plus de 100. Quoi, il y a 400 personnes qui travaillent sur le marathon des sables, quand même. Alors, il y a des bénévoles, y compris les bénévoles, mais tu as quand même 400 personnes qui sont à ta dispo. Dans les 400, il y a une centaine de personnes sur le médical. Et du coup, bah, le soir, quand tu rentres, tu vas au médical, quoi, dans une grande tente où tout le monde se fait soigner les pieds, plus les autres petits bobos. Moi, je me suis ouvert le doigt avec le couteau parce que comme, quand je voulais ouvrir mon lyophilisé. Et puis, bah, du coup, ça ouvre et le couteau, il dérape et te découpe le doigt. Crac, voilà. mais quand tu te fais sonner, quand tu te fais soigner les ampoules, les infirmiers sont là. Ils te, moi j'ai peur des aiguilles, donc ils me le faisaient pour moi. Mais normalement ils te montent la première fois et après ils te, tu le fais tout seul. Et donc du coup de l'éosine avec dans une seringue en fait, tu t'aspires ton jus et quand tu après tu le remets et ça te met ton jus de ton ampoule plus l'éosine. Pour soigner toutes tes ampoules. Et ça, franchement, l'équipe médicale, elle est vraiment incroyable sur place.
D'un point de vue matos, vous avez amené quoi comme paire de chaussures Qu'est-ce qu'on prend comme type de chaussures pour ce genre de défi de parcours, Claude-Henri?
Moi, j'ai été, comme notre maître Yodu, on est chez ASICS, donc j'avais pris des Traboco. Qui était parfaite pour qui était parfaite. Après tu fais coudre et scratcher coudre et coller un scratch tout autour de la chaussure.
Ok.
Au niveau du tissu chez un cordonnier ou chez Red Light, quand j'ai fait chez Red Light. Et après tu mets une guêtre. Et après tu as différents types de guêtres, soit tu les enfiles, soit tu les tu peux les recoller quoi. Bref, il y a différents types, mais la guêtre te protège quand même énormément du sable parce que quand tu es dans les dunes, tu as le pied qui s'enfonce et le sable arrive facilement au-dessus de la cheville.
Ouais, peut rentrer dans la chaussure. Et là ça devient un enfer.
Totalement.
Marilyn,
de toute façon, faut pas l'enlever. Hein.
Ouais. Marilyn, toi c'est pareil, tu avais à peu près le même fonctionnement.
Moi, j'avais pris des chaussures route cette année, alors qu'il y a 2 ans, en fait, il y a deux écoles. Hein. Il y en a qui prennent du trail et de la route.
Ouais.
Parce qu'en fait, il y a des passages où tu n'as plus besoin de chaussures de trail et d'autres de la route. Donc, à voir. Et comme je voulais surtout privilégier le confort et le fait de ne pas avoir d'ampoule, etc., plutôt qu'au niveau accroche, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout le temps des chaussures qui accrochent, j'avais pris des chaussures route assez légères. Mais j'avais fait pareil. Hein. J'avais scratché, collé et scratché chez un cordonnier. Et coudre, pardon, les scratchs sur les chaussures pour pouvoir mettre les guêtres. Ouais.
D'accord. Quels sont vos prochains défis, Claude-Henri? Tu nous l'as dit, ça sera le marathon de Londres.
Ouais, j'ai Londres et Sydney dans la foulée. Pas dans la foulée, en août.
Ok, très bien. Et toi, Marilyn, quel est ton prochain défi à venir?
Alors, rien à voir, ça sera le Québec Mega Trail au Québec, de 135 km et 6000 mètres de dénivelé.
Ah oui, quand même. Encore un autre défi.
Ouais, pas mal. C'est quand ça?
En juillet.
Ok, donc t'as quand même le temps de refaire un peu de prépa et ouais. de basculer sur le trail.
Il y aura des petites courses entre, notamment le Trail des Morts, enfin voilà, la VVX, tout ça, mais ouais, pour préparer aussi le Québec Mega Trail.
Donc là, on reprend l'entraînement quand environ?
Bah, c'était fait ce matin.
Ok.
Ça m'a trop dérangé. Et d'ailleurs, sans sac, on se sent. Sans sac sur le dos, on se sent hyper léger, c'est incroyable.
Ça aide.
Moi, j'y vais demain matin, donc j'ai vraiment hâte parce que quand t'es là-bas, j'avais qu'une seule chose en tête, c'est de me dire, je vais courir sans sac. Sans chaussures qui sont. C'est vrai que les trails sont quand même un peu plus lourdes que.
Bah, c'est lourd.
Que
ouais.
Tu peux avoir quand tu cours en super blast ou autre. Et sans sable et donc du
sans frontal, sans couteau dans les poches,
tu vas
sans
voir,
cube
yophilisé.
Ah ouais.
Tu vas sans voler, c'est un bonheur.
Ouais. Sans bâton, allez. Sans te dire, attends, j'ai ça, ouais. j'ai ça. Et là, juste prendre tes affaires et partir. Et tu dis, waouh, je pense que ce moment-là, je l'ai. Bizarrement, c'est assez. Alors que je ne suis pas un gros runner, mais tu le rêves en fait. Parce que le sac, il est tellement lourd à un moment. Et tu dis, mais j'en peux plus de ce truc que.
Tu as envie de le balancer.
Ah, tu as envie de le balancer. Quand tu arrives, moi, la première chose que je faisais quand je passais la ligne, c'est je déboutonnais tout.
Ouais.
Parce qu'au début, quand tu pars, à la différence de Marilyn, moi j'ai beaucoup, beaucoup de choses et j'avais un front bag. Donc, c'est encore un sac que tu viens rajouter devant,
ah oui.
En plus de ton sac à dos.
Tu voulais mettre quoi dedans? Ton ordi?
Bah ouais, j'avais pris mon ordi. Non, mais tu prends tout, en fait, tu sais pas trop.
Ouais, surtout quand c'est ta première participation,
non,
tu prends peut-être
première,
des choses.
Ouais, tu te rends compte, tu prends des choses inutiles. J'avais pris du dentifrice forcément, mais j'avais pris un grand tube avec une vraie brosse à dents, par exemple, parce que je t'ai dit, je veux pas en manquer.
Tout coupé, bon, donc après.
Voilà, tu coupes tout. Au final, le savon, j'avais pris pas un grand gel douche, bah, parce que mais j'avais pris un grand truc un peu pour tout le monde en me disant oh, mais t'inquiète, c'est pas grave,
ouais,
c'est que 300
grammes. Je partagerai.
Ouais. Mais ouais, bah, voilà. Et toutes ces petites choses-là, finalement, c'est 200 grammes, 200 grammes, 200 grammes.
Ah,
et
puis chaque gramme, tu les sens.
Ouais. Bah, à la fin, tu les sens. Et j'avais pris de la nourriture en plus en me disant mais on sait jamais parce qu'en fait si je m'arrête que j'ai faim donc tu prends du lyophilisé en plus et nous c'était MX3 mais le hachis parmentier tu vois je devais en avoir 4 ça pèse 300-400 grammes donc ouais, du ouais. coup finalement ces choses là même si c'est lyophilisé et après on les a mis sous vide pour prendre moins de place bah ça prend quand même ça fait quand même du poids,
ça prend du poids.
Toi, Marilyn, ouais, j'imagine que ton expérience d'il y a 2 ans, ça t'a servi pour construire ton sac, pour savoir ce que tu mettais dedans ou pas. T'avais pris des choses qui t'avaient pas servi il y a 2 ans et dont tu t'es débarrassée cette année.
Pas forcément, parce qu'il y a 2 ans, j'avais bénéficié de conseils d'amis qui, comme moi, partaient sac léger. Donc, j'avais fait à peu près pareil. Ce qu'il y a, c'est que j'ai changé un peu la nourriture, j'ai changé un peu, j'ai ouais. peut-être encore pris moins d'habits, enfin voilà, des petits détails, mais j'avais déjà optimisé la dernière fois.
Ouais. Chaque gramme finit par compter, on les sent sur ses épaules, j'imagine.
C'est ça. Moi, j'ai une petite question concernant le roadbook, c'est tracé ou vous partez avec une carte en main ou c'est balisé ?
On part avec la boussole, pas de trace, Yoann.
Vraiment, pas de trace, rien.
Non, mais non, tout est tracé.
Ah bon, ah bon.
Tout
balisé,
est tracé.
Mais on n'a pas de trace GPX, voilà.
Ouais. Ok.
Mais c'est.
Mais vous n'êtes pas perdu ?
Non. Okay. Enfin, pas moi. Moi, je suivais les autres, donc comme des moutons.
Ouais.
J'ai perdu 10 minutes une fois, mais bon, c'est pas grave, j'ai fait demi-tour et j'ai rejoint.
Ah ouais, tu t'es perdu.
Ouais, ben moi, je me perds tout le temps. Hein, même
ouais, c'est ça quand t'es devant. Hein. C'est vrai que Claude-Henri, il n'a pas ce problème. C'est le premier strong.
C'est plus simple quand tu es en groupe et que tu peux suivre les autres.
Ah ouais.
Tu sais qu'il y a... Mais c'est ça, c'est qu'il y a un moment, quand tu vois les autres, à moi, tu te dis, mais je ne regarde même pas si je suis sur le vrai tracé ou pas.
Ouais, ouais.
Donc, c'est des moutons qui suivent. Ah ouais. C'est ça. Et c'est vrai que parfois, tu peux un peu couper. C'est comme au Dakar. On te dit le point A, le point B, l'arrivée, elle est au point B. Bon, bah, y a des... parfois, tu traces tout droit en te disant, bon, c'est bon, je ne vais pas prendre... je vais pas me faire les balises. Qui me décale du trajet alors que tu pouvais faire un petit tout droit et gagner un peu de
ouais.
temps.
Ouais. Ouais, sauf qu'il y a des sables mouvants et on aurait retrouvé notre Claudio.
Ouais, bah ouais. Mais j'avais toujours du monde avec moi. Non, mais c'est vrai que par contre, c'est l'ambiance, c'est vraiment incroyable. Et le fait de, sur l'étape longue, enfin, les 3 dernières étapes où il lâche les élites après nous, 1h30 après, c'est super excitant. Parce que tu les vois passer, déjà, toi, tu galères avec ton sac, t'en peux plus. Et eux, tu les vois passer comme des gazelles à côté de toi. Et tu te dis, waouh, les gars, vous êtes des machines, quoi. Franchement, ils sont impressionnants. Je ne sais pas si tu as vu, Marilyn, il y avait un grand costaud qui devait entre la 20e, vers la 20e place. Le mec, il devait mesurer 1m96. Tu vois,
Ouais, c'est pas le gabarit pour aller dans le sable.
Ah non, c'était un Benjamin Fall. Le truc était énorme, une énorme amont à glace. Et il devait peser 80 kilos.
Je crois avoir lequel c'était tout tatoué, non ?
Exactement. Et le mec, tu le vois passer, tu te dis, mais mec, t'es une machine.
Comment tu fais ?
Comment tu fais pour toi galoper alors que tu vois en effet les petits gabarits qui tracent. Et voilà, il y a plein de choses impressionnantes. Et puis des histoires de dingue, des gens qui ont eu des cancers, qui courent pour des gens, mais ça, t'en as plein. Il y a un mec qui courait en claquette. Il s'est fait le marathon des sables en claquette.
Ah oui.
Il est indonésien. Ouais, lui, il n'a pas d'ampoule.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est l'avantage.
Mais des histoires comme ça, il y en a. Enfin, bon, ça, c'est une histoire plutôt drôle, mais des histoires touchantes, des gens qui courent pour des causes ou pour des gens, il y a plein de choses. Et c'est vrai que le fait de voir tout ça, ça te donne aussi l'énergie. Nous, les petits lambdas qui courront derrière les élites, ça te donne aussi de la force parce que tu te dis, si ces gens-là arrivent à le faire. Ouais. Tu peux le faire. Il y a des gens qui sont en surpoids, hein, tu vois, où tu vois qu'il y a quand même qu'ils ont du poids à porter sur eux. Et ça, en fait, tu peux dire que respect, parce que quand la personne elle est beaucoup plus lourde que toi, et que tu la vois finir, tu te dis waouh, c'est plus qu'impressionnant.
J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui rend même cette course si mythique, Marilyn?
Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est tout un ensemble de choses. Hein. C'est à la fois le défi, les conditions, le défi, le fait d'être complètement... en fait, de se retrouver... je ne sais pas comment dire... Avec le strict nécessaire, sans le superflu. Enfin, pour ma part, je n'avais même pas pris de téléphone. Je me suis retrouvée sans réseau, sans rien. Donc, il y a tout ça, le fait de vraiment se retrouver avec l'essentiel. C'est surtout une aventure humaine. C'est surtout une aventure humaine. Toutes les rencontres qu'on peut faire, les gens totalement différents qui peuvent faire la course. Et on garde plein de souvenirs. Mais les plus beaux souvenirs, je pense que c'est surtout les rencontres qu'on fait durant cette course.
Et toi, Claude Henry?
Moi, il y a l'organisation. L'orga, c'est Cyril, Ferdinand et Olivier sont excellents dans le storytelling. Ça veut dire qu'ils te font croire que tu es une légende. Il y a un moment où tu dis, quand tu regardes le film, tu dis finalement, je suis peut-être une légende.
franchement, pour faire ce genre de défi, oui, je crois.
C'est ça.
Ouais, j'ai encore du mal, moi, à me dire que je suis fier de ce que j'ai fait parce que tu te dis, ouais, bon, finalement, tu l'as fait, peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, l'histoire que eux racontent et la voix que vous avez entendue au début, c'est la voix de Cyril, l'organisateur. Ils te mettent en pression, ils arrivent à te faire penser que tu vas y arriver et c'est vrai, à te faire vivre une histoire incroyable. Donc eux arrivent à porter des émotions et c'est vrai qu'après c'est tout ce que tu peux faire autour. On en parlait avec ceux de l'attente, ça nous manque déjà.
Ouais.
Alors qu'on est rentré, qu'on est content de retrouver notre famille, notre travail, nos amis, tout ça. Mais tu te dis waouh, c'était puissant ce que tu as vécu. Et pourtant, dans l'attente, nous, Cindy a vécu Koh Lanta, où elle était en finale. Donc, elle a vécu ce genre d'émotion. Elle a vécu cette vie sur un camp où tu manges pas. Cette vie de groupe. Et elle te dit que le marathon des sables est tout aussi puissant, alors que c'est que 6 jours. Enfin, 7 jours et 8 jours avec le jour d'acclimatation. Donc, tu as quand même quelque chose d'ultra puissant à faire. Et moi, je ne peux que le recommander à tout le monde de le faire avec un peu de prépa, malgré tout. Un peu plus que moi, en tout cas. Mais pour ne pas souffrir autant. Mais c'est incroyable. Et surtout, prenez 2 pointures en plus sur vos chaussures et pas une pointure comme j'ai pu
le faire. C'est pas assez.
C'est pas assez. Mais non, et ton pied, il gonfle tellement là-bas.
Il gonfle tellement.
Mais c'est ça, le pied gonfle tellement avec l'effort, et puis surtout il y a 2 types d'efforts. Le moment où Marine, elle ne connaît pas la marche, mais quand nous on marche, c'est pas le même effort que ton pied, a pas les mêmes appuis que quand tu cours. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais franchement je ne peux que le recommander à tout le monde de le faire, et si les gens ne sont pas capables de le faire, il y a les petits formats qui sont les HMDS, qui sont tout aussi magnifiques. C'est vraiment, vraiment incroyable à faire.
Eh ben merci en tout cas à vous deux d'être venus nous raconter cette incroyable aventure que vous avez vécue. Et puis merci Johan également d'avoir été...
Ça donne presque envie. Hein.
On va finir par faire un débrief avec toi un jour.
Mais la prochaine fois, je l'emmène avec moi. Je le prends dans mon sac.
On suivra ça de très près.
Il ne fait que 12 kilos, donc ça devrait aller.
Oui, c'est ça.
Tout mouillé.
Exactement.
Merci beaucoup en tout cas à vous trois. On vous
merci
dit à très
vite.
Sur RMC Running, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes d'écoute, sur la chaîne YouTube RMC Running également. Et puis sur nos réseaux, vous nous retrouvez sur Strava, Instagram, TikTok et tout ce qui s'ensuit. Merci à tous. Ciao.
RMC Running.